Enfin, moins bien, en tout cas.
Le deuxième était le score. Transistor.
Édition spéciale, Transistor, aux Journées de l'écho.
Bonjour, nous accueillons aujourd'hui pour Transistor et dans le cadre des Journées de l'économie André Orléans. Pour revenir Bonjour. Sur votre parcours, vous êtes économiste des conventions, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, membre du comité de direction de la revue Annales, Histoire et Sciences Sociales et membre du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers. Vous avez publié notamment en 2002 « La monnaie entre violence et confiance ». En 2009, de l'euphorie à la panique, pensez la crise financière, mais surtout plus récemment, en octobre 2011, l'empire de la valeur refondait l'économie. Alors, dans un premier temps, j'aimerais tout d'abord revenir sur votre parcours. Vous avez fait vos études à l'école polytechnique, donc a priori des études plus mathématiques, et progressivement vous êtes tourné vers une approche pluridisciplinaire de l'économie, à la fois sociologique, historique et philosophique. Quels sont, selon vous, les enjeux d'un tel pluralisme ?
Ils sont très importants. Je pense en particulier que on peut parler en ce moment d'une certaine forme de crise de la théorie économique, c'est-à-dire les événements. En tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'en effet, il y a une crise certaine de la pensée économique qui est liée à la crise de l'activité économique et qui s'est traduite, comme chacun le sait, par le fait que les économistes en général, même si évidemment il y a des cas particuliers, mais disons en général, la communauté des économistes n'a pas été capable de diagnostiquer les défaillances, les faiblesses, l'instabilité qui était propre au capitalisme financier. Donc il y a mon point de départ, c'est cette idée qu'il y a eu une crise, il y a eu un diagnostic mauvais, il y a eu une erreur, parce que ce n'est pas simplement que la crise n'a pas été prévue, c'est que si vous lisez la majeure partie de la pensée, des rapports, des grandes institutions, il y avait au contraire la pensée que le système s'était stabilisé et donc la crise s'était éloignée au contraire. Donc il y avait cette idée que la concurrence financière, la financiarisation, la dérégulation avaient conduit à un système qui était devenu plus stable. Et donc il y a là vraiment une erreur de diagnostic qui me paraît vraiment essentielle. Donc je pense qu'il y a là un problème pour les économistes et il faut l'affronter. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas lieu. Cette erreur de diagnostic est massive. Penser que la titrisation qui a été au cœur de la crise qu'on a connue était perçue par la majorité des économistes comme ce qui permettrait d'éviter les crises bancaires, alors que c'est ce qui les a provoquées. Donc il y a vraiment un problème. Ça fait longtemps que je réfléchissais sur les limites de l'économie, mais je pense que cette situation en particulier a illustré ce problème. Et à mon sens, une des raisons, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de savoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans l'économie, et je trouve qu'une des raisons, en effet, de cette déficience est dans la nature trop fermée des outils, des hypothèses trop restrictives de l'économie. Donc cette fermeture de l'économie sur laquelle vous commenciez par m'interroger, qui l'a constituée en tant que tradition de pensée, me semble-t-il, a conduit à cette impasse. Donc pour moi, l'enjeu d'essayer d'articuler la pensée économique avec la pensée des sciences sociales en général est un enjeu fondamental parce que c'est comme ça qu'on appréhendra mieux le réel. La question de la compréhension de la réalité, de la vérité de nos modèles, de la véracité de nos modèles, à mon sens, c'est très particulier, mais à mon sens se joue en particulier dans cette articulation entre l'économie et les sciences sociales. C'est pour ça que c'est au cœur de mon projet.
D'accord.
Et justement, notamment par rapport à la conférence à laquelle vous allez participer demain, donc sur le rapport entre l'économie et les sciences dures, selon vous, quel rôle doivent jouer les mathématiques, en fait, dans l'économie et dans la justification de l'économie ?
Alors, les mathématiques sont un outil tout à fait important. Donc, lorsque je ne repousse pas du tout, je ne fais pas partie de ceux qui penseraient que il n'y a pas lieu d'avoir de la mathématisation en économie. Je trouve au contraire qu'elle est très utile. Elle est en particulier très utile pour penser des systèmes d'interaction complexes, parce que, en effet, il n'est pas possible de dominer par la pensée des systèmes d'interaction complexes comme l'équilibre général ou des structures d'interaction complexes entre différents marchés, plusieurs acteurs, etc. Donc la mathématique est pour moi un outil absolument central de l'économie. Ce qu'on peut dire plus généralement par rapport à la mathématisation, c'est que néanmoins, il faut jamais oublier que la mathématisation, les résultats des modèles mathématisés ne valent pas uniquement parce qu'ils sont mathématisés. Je pense qu'il n'y a personne qui serait assez bête pour le penser. Et donc, ça renvoie à ces hypothèses. Donc, la mathématisation ne me pose aucun problème. Il faut bien avoir conscience que c'est plutôt un élément qui facilite la pensée. Mais ce qui compte beaucoup pour l'économie, ce sont les hypothèses sur lesquelles est fondée cette mathématisation. Il y a différentes formes de mathématisation à partir des hypothèses. Mais je ne crois pas, si vous voulez, je ne suis pas un critique de la mathématisation en soi. Je vais critiquer tel modèle, tel usage de la mathématique parce que il est lié à des hypothèses qui me semblent trop restrictives, etc. Mais je n'ai rien. Je pense que les mathématiques sont très utiles.
Moi, j'aimerais revenir sur un des éléments de votre première réponse, qui est la question de la crise financière. Vous avez en effet beaucoup travaillé sur les marchés financiers. Alors, dans le contexte de la crise actuelle, on parle souvent d'exubérance irrationnelle, pour reprendre le terme de Alan Greenspan, exubérance irrationnelle des marchés financiers, phénomène qui va être caractérisé par une forte volatilité des prix. Néanmoins, vous rejetez une analyse trop simpliste visant à dire que les acteurs financiers seraient fous ou irrationnels. Comment peut-on comprendre votre explication d'un comportement rationnel des agents sur les marchés financiers? Comment peut-on comprendre ces comportements comment peut-on les concilier avec le caractère fortement instable de ces marchés financiers?
Alors oui, ça c'est un point très important. En effet, vous exprimez parfaitement ma pensée qui est que je ne crois pas, comme j'ai écrit, que la crise soit liée à des déviations par rapport aux règles. Je crois que c'est les règles financières, les règles de la concurrence financière qui produisent la crise. Je pense que, évidemment, les fraudes, etc., tout ça intervient dans la réalité, mais le cœur de l'instabilité est dans la concurrence financière à proprement parler. Et d'ailleurs, juste avant de répondre à votre question, sinon, s'il n'en était pas ainsi, on aurait du mal à comprendre cette répétition absolument systématique de l'instabilité financière, des crises financières sur les marchés d'échange, sur les marchés de matières premières, sur les marchés d'actions, etc. On a connu en particulier dans cette période de capitalisme financier une récurrence des crises. Et il me semble qu'on ne peut la comprendre que justement si on comprend que c'est dans le programme même de la concurrence financière. Sinon, en effet, on est amené à des hypothèses un peu étranges qui est il y aurait eu de la folie collective, etc. Ce qui peut expliquer un ou deux cas, mais qui n'explique pas comment ça arrive de manière récurrente, tout le temps, constamment. Donc, en effet, c'est ça ma thèse. Alors, le paradoxe, en fait, est assez simple à comprendre, c'est que, ça c'est un point qui a été montré en particulier par la théorie économique, c'est qu'il n'y a pas du tout d'identité entre la rationalité individuelle et la rationalité collective. Donc, le passage de comportement rationnel individuellement, où chacun cherche le mieux à poursuivre son intérêt personnel au mieux de son environnement, peut parfaitement conduire à des solutions collectivement néfastes. Donc, voyez, c'est des choses qui ne sont pas contradictoires. Et c'est ça mon point, en fait. Les acteurs sont rationnels, mais la rationalité, sur laquelle je vais revenir, la rationalité particulière de la finance de marché conduit à ce qu'il y ait des excès au niveau de la formation des prix. Donc, et ça, c'est une structure intellectuelle, un modèle que nous connaissons bien, dont l'illustration la plus célèbre est le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier rendant compte justement de comportements rationnels qui conduisent à un mauvais résultat collectif. Donc c'est bien, c'est comme ça que j'interprète le problème. Donc l'idée absolument centrale et qui peut être compréhensible et explicable de manière assez rapide, c'est que les marchés financiers, gagner de l'argent sur les marchés financiers, faire du profit rationnellement sur les marchés financiers, c'est essentiellement être capable de prévoir ce qui va se passer sur les marchés financiers eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, vous gagnez de l'argent, vous allez acheter un titre, une action, une monnaie, si vous pensez que cette action, ce titre, cette monnaie va voir leur prix augmenter. Donc, ce qui vous intéresse quand vous êtes dans sur ces marchés financiers liquides, ce qui vous intéresse, c'est le prix futur sur ces marchés eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que je parle d'une structure que j'appelle autoréférentielle. C'est ce caractère autoréférentiel qui fait que la rationalité financière se focalise non pas comme on le pensait ou que certains qui défendent les marchés financiers le disent, non pas n'est pas porté sur la réalité, sur la véritable profitabilité des entreprises ou la situation réelle. Donc le regard du marché n'est pas porté sur l'extérieur, sur l'économie qu'il essaye de penser, il est porté sur lui-même. Et c'est ce mécanisme que j'ai essayé d'expliciter, c'est ce mécanisme d'autoréférentialité qui, rationnellement, peut conduire à des dérives à la hausse et à la baisse, comme on l'a connu. Aujourd'hui, on a l'actualité se veut qu'on est dans une période où il y a un problème avec la dette publique italienne. Le mécanisme aussi, il ne faut pas croire que les taux d'intérêt sur la dette publique italienne, par exemple, renverraient à une réalité qui serait la probabilité de défaut de la dette italienne. Il y a un mouvement spéculatif autoréférentiel qui pousse à la dépréciation de cette dette et qui se nourrit lui-même par le mécanisme autoréférentiel. Donc l'exubérance, elle est pas irrationnelle, elle est dans la nature du marché. Quand il y a ces périodes, comme on a vu, des périodes de hausse, eh bien, les acteurs vont avoir tendance à acheter des produits qui augmentent. Et donc, il y a cette situation qui est très étrange, qui est que les conditions, la loi de l'offre et de la demande, pour le dire simplement, la loi de l'offre et de la demande ne fonctionne pas en concurrence financière. La loi de l'offre et de la demande, nos auditeurs doivent en être absolument conscients, c'est vraiment le cœur de l'autorégulation concurrentielle. Au fond, le résultat le plus essentiel de la théorie économique, c'était cette idée que la concurrence s'autorégule. Et donc, si vous êtes sur un marché de biens, c'est ça que nous ont expliqué les classiques, sur un marché de biens, eh bien, il y a des offreurs et des demandeurs, des producteurs et des consommateurs, et il y a deux forces contraires. Les producteurs essayent que les prix soient élevés, les consommateurs essayent que les prix soient bas, et vous avez une espèce de rencontre entre ces deux forces de sens opposés, et c'est comme ça que se produit l'équilibration. Quand le prix augmente un peu trop, la demande va baisser et l'offre va augmenter, toutes choses qui vont tendance à ramener le prix, c'est ce qu'on appelle les forces de rappel. Donc il y a ici un très beau mécanisme d'autorégulation qui est valable pour les biens ordinaires. Mais l'erreur, me semble-t-il, conceptuelle, qui est surtout moderne, parce que les classiques Smith et Ricardo s'intéressaient assez peu à la question, aux questions financières, même s'il existait des marchés financiers. L'erreur des modernes, ça a été, avec la théorie de l'efficience financière, de penser que ce mécanisme d'autorégulation de la concurrence sur les marchés de biens pouvait se transmettre aux marchés financiers et que sur les marchés financiers, la même autorégulation était valable. Ce point est absolument central parce que c'est celui-là qui justifie la dérégulation. Il y a de la dérégulation, elle se justifie conceptuellement que parce que ces mécanismes sont capables de s'autoréguler. C'est ça la thèse centrale. Si on comprend que les marchés ne s'autorégulent pas, les laisser à eux-mêmes, c'est une catastrophe parce qu'ils ne se régulent pas précisément. Et donc c'est bien ce qu'on voit dans les périodes de crise, qu'on a revues récemment. Quand les prix augmentent, La demande ne baisse pas du tout. La demande augmente parce que les prix augmentant, ça crée des plus-values et donc ça attire de nouveaux investisseurs dans un processus mimétique. Et quand les prix baissent, il ne faut pas croire que la demande augmente parce que les prix baissent. Pas du tout. Quand les prix baissent, il y a de moins en moins d'acheteurs. Et la preuve en est, c'est qu'on a connu une catastrophe en 2008 où les prix se sont effondrés et à aucun moment il y a eu des forces de rappel. Il n'y a aucun moment des investisseurs qui, voyant des produits titrisés, ont dit « Tiens, les prix sont tellement bas que je vais les racheter ». Si la crise s'est arrêtée, c'est parce qu'il y a eu un acteur extérieur qui était les pouvoirs publics qui ont racheté ces titres, non pas en fonction d'une logique financière, mais parce que pour sauver le système. Donc ici, on a un point qui est conceptuellement absolument central dans la question du capitalisme financier, c'est que ces marchés ne s'autorégulent pas. Donc ça ouvre, si on croit mon hypothèse, ça ouvre des questions évidemment pratiques de comment est-ce qu'on fait avec ces marchés financiers.
Tout à fait, oui. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais reciter une phrase donc, qui est tirée de l'euphorie à la panique. Vous dites, je cite, « La crise ne vient pas de ce que les règles du jeu financier ont été contournées, mais du fait qu'elles ont été suivies ». Donc on retrouve bien là votre propos.
C'est ça. Parce que souvent, justement, on a tendance à mettre l'accent sur les fraudes, les écarts, etc. par rapport aux mécanismes de prix. C'est souvent ce qu'on fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est secondaire. Et c'est d'ailleurs, quand vous réfléchissez, c'est très étrange. Si vous pensez, par exemple, aux premières remarques, au premier G20 qui a été fait post-crise, vous voyez une liste de dérapages qui est mise en avant, une liste qui est absolument considérable. C'est les rémunérations, les agences de notation, la manière dont les produits étaient créés, la comptabilité, etc. Il y a une liste qui ne me revient pas comme ça soudainement, mais qui, au fond, tous les mécanismes, toutes les institutions qui étaient autour du marché, on a dit, tiens, ils n'ont pas fonctionné. Ce qui est très étrange, c'est qu'on n'a pas remis en cause le mécanisme lui-même. C'est-à-dire que le raisonnement, au fond, même aujourd'hui, le raisonnement, c'est pour ça qu'il y a quand même un enjeu théorique à cette question de l'instabilité financière, c'est que le raisonnement, c'est quand même toujours de considérer qu'il n'y a pas d'autre solution pour allouer le capital au niveau planétaire que les règles de la concurrence financière. Et le G20 se donne typiquement et explicitement comme perspective de recréer des marchés intègres, de faire en sorte que la concurrence financière fonctionne bien. Parce que dans le diagnostic du G20, ce qui a pas marché, c'était tout ce qu'il y avait autour des marchés. Mais jamais le cœur, le mécanisme lui-même est remis en cause. Donc c'est un point ici qui est très important. En particulier, le mot d'ordre de transparence, qui évidemment est souhaitable, je veux dire, le niveau d'opacité sur certains marchés est absolument hallucinant, surtout des marchés comme ceux de la dette ou des CDS sur lesquels on sait très très peu de choses, alors qu'ils ont les CDS, donc les assurances sur la dette publique, ils ont une importance très très forte, on connaît presque rien de ces marchés. Enfin, je vois bien qu'il y a une nécessité de transparence, mais je ne crois pas que la transparence soit la solution. C'est-à-dire que il se peut tout à fait que les produits soient transparents et qu'en même temps vous ayez de l'instabilité, parce que la question n'est pas celle de la transparence. Je cite volontiers comme exemple de bulle en parfaite transparence la bulle Internet. Dans la bulle Internet, quand vous achetiez ou vendiez des titres de start-up de la nouvelle technologie, tout le monde savait exactement de quoi il s'agissait. Ça ne les empêchait pas, sachant exactement ce dont il s'agissait, d'avoir des idées d'augmentation des prix faramineuses. C'était pas une question de tout était transparence, rien n'était caché. Aujourd'hui, on nous dit la titrisation proviendrait de l'opacité, c'est-à-dire que les acheteurs de ces produits titrisés savaient pas exactement d'où est-ce qu'ils venaient, etc. Certainement, je nie pas que ce fait soit vrai, mais je pense qu'il était tout à fait possible d'avoir exactement le même processus s'il l'avait su. Parce qu'il pouvait parfaitement savoir qu'il y avait des subprimes dans ces produits titrisés et les acheter parce qu'il pensait que, par exemple, les prix de l'immobilier allaient augmenter, etc. Ce que j'explique dans mon bouquin. Donc, c'est pas la question de la transparence. C'est une question importante, mais à mon sens, elle renvoie à un corpus théorique qui maintient qu'avec transparence, on a de la concurrence financière stable. Mon point de vue, c'est qu'il y a une instabilité inhérente à la finance et donc la nécessité de la contrôler de manière extrêmement étroite.
Donc, vous avez écrit un livre, donc, L'Empire de la Valeur, refonder l'économie, qui est paru le 20 octobre 2011. Vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez nous redémontrer en quoi, selon vous, les marchés financiers ne font pas que révéler une sorte de valeur fondamentale à travers l'information qui serait transmise ?
Alors, dans le livre, en fait, l'Empire de la valeur ne porte pas essentiellement sur la crise, ni sur la politique économique. Il essaye, dans la perspective de ce que nous disions au début de ce dialogue, de refonder l'économie. Donc, vaste problème, qui est un peu, évidemment, vaste programme, qui est un peu, qui peut faire peur. Mais essentiellement, ce que j'essaye de défendre dans ce livre, c'est que il y a une erreur, en quelque sorte, conceptuelle dans la pensée économique qui est la conception, ce que j'appelle substantielle de la valeur, c'est-à-dire penser que la valeur est une substance qui est, en quelque sorte, objective, qui est dans les choses. Et comme vous le savez, il y a deux traditions de valeur, qui est les classiques qui pensaient que c'était le travail et les néoclassiques marginalistes aujourd'hui qui pensent que c'est l'utilité. Dans les deux cas, vous avez un mouvement vous avez un geste intellectuel qui est très particulier, qui pense la valeur sous la forme d'une substance. Et pour rappeler le début de notre discussion, justement, il me semble que c'est là justement d'où est l'origine du schisme dans les sciences sociales, parce que cette conception de la valeur objective comme étant une substance est sans équivalent dans les sciences sociales. Dans les sciences sociales, les valeurs morales, religieuses, sont des représentations collectives que les hommes se donnent. Et donc, il y a tout à eu un mouvement, au contraire, dans les sciences sociales, de déconstruction de la valeur pour essayer d'expliquer qu'elle avait cette nature de représentation collective. Et on se trouve, au fond, avec un concept de valeur économique qui est substantiel. Ce qui prouve, ce qui est intéressant du point de vue, d'ailleurs, de nos sociétés, qui prouve qu'à quel point ça, en quelque sorte, il y a une fétichisation, à quel point la question des valeurs économiques est centrale et qu'on peut pas, en quelque sorte, en percevoir, en quelque sorte, la relativité, tellement nos gestes dépendent de cette croyance que nous avons dans la valeur économique. Et donc, le projet de ce livre, L'Empire de la valeur, c'est justement de déconstruire et d'essayer de montrer que la valeur économique, au fond, a la même nature d'être une représentation sociale comme les autres valeurs, qui peut s'identifier à l'utilité. Évidemment, je ne dis pas que les objets soient utiles, mais que l'utilité n'est qu'une expression d'un rapport plus profond qui est la valeur sous sa forme abstraite et dont je dis qu'elle est instituée à travers la monnaie. Bon, tout ça pour dire que c'est ça ma question dans l'Empire de la valeur. Et ce qui est intéressant pour moi, donc, c'est de montrer en quoi la valeur n'est pas une mesure de quelque chose qui serait objectif et qui est donné, ce qu'elle est dans la tradition économique, ce qui fait qu'au fond, les acteurs ont peu d'importance par rapport à cette valeur substance qui s'impose à eux. L'utilité, elle est là, évidemment, ils ont des regards subjectifs sur cette utilité, mais elle est dans les choses. La valeur, c'est encore plus vrai chez les classiques. Donc, il y a une espèce de ce que j'appelle l'économie, je dis, c'est une économie des grandeurs, parce qu'elle ne cesse de calculer des grandeurs. Et j'essaye de lui remplacer une économie des relations qui essaye de comprendre comment les jugements, les intérêts s'investissent dans des processus de valorisation. Et c'est comme ça qu'il faut les penser. C'est cette opposition que j'essaye de tenir. Et dans il y a une dernière partie où j'essaye d'illustrer ce phénomène avec l'économie financière. Donc là, l'économie financière, évidemment, je vais retrouver les thèses que je développais, mais elle intervient ici comme une illustration de cette thèse sur cette économie des grandeurs sur la valeur. Parce que il n'y a pas plus emblématique de l'économie des grandeurs, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire une économie qui n'arrête pas de mesurer des grandeurs et qui s'intéresse peu aux interactions, aux croyances. Et le cas emblématique, c'est l'économie financière. L'économie financière, même des gens qui n'y connaissent rien, savent qu'il y a des ingénieurs, qu'on a des formules, qu'on calcule des formules, que ça consomme des mathématiques, de la statistique à tour de bras. On donne un prix Nobel à celui qui trouve la formule pour les valeurs des options. Donc c'est vraiment le monde de la grandeur, de la valeur. Et tout ce que j'essaie de montrer, c'est que ça ne tient pas. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait une valeur qu'on pourrait mesurer, qui serait en quelque sorte donnée au marché, que le marché n'aurait plus qu'à exprimer, parce que la valeur, ça serait objectif, ça serait des profits, etc., j'essaie de montrer que ça ne tient pas. Et on pourrait prendre à nouveau, par exemple, l'histoire des taux d'intérêt. Je veux dire, les taux d'intérêt tels qu'ils se forment aujourd'hui ne sont certainement pas une mesure objective d'une probabilité de défaut. La preuve en est, c'est qu'on n'est pas du tout dans un mécanisme de mesure de quelque chose qui est. On est dans un processus en quelque sorte stratégique d'intérêt qui s'exprime très divers dans les jugements de valorisation. La preuve en est, c'est que, comme nous le savons, la valorisation du taux d'intérêt aura des effets sur la probabilité. Donc on est dans un mécanisme conceptuel, dans une temporalité qui n'est pas celle d'une mesure de quelque chose. Aujourd'hui, il existerait une probabilité objective de défaut de l'Italie, et on pourrait la mesurer, ça n'a pas de sens. On fait des conjectures selon certains intérêts, selon certaines croyances, et ces conjectures vont avoir des effets sur le réel. Donc la valorisation, le jugement de valeur, au fond, ressemble au jugement de valeur dans d'autres sphères de la société, où elles sont aussi, dans d'autres sphères de la société, liées à des visions stratégiques, à des intérêts, à des engagements de la société. C'est pour ça que ça me conduit, évidemment, à plaider sur l'idée que ce qui est propre à l'économie, en quelque sorte, c'est le monopole de la valorisation qui est donné en ce moment au marché. Donc je suis amené à dire, en effet, que, par exemple, le monopole donné aux les agences de notation, par exemple, pour prendre ce cas, au départ étaient intéressants dans leur idée, puisque dans la conception, puisqu'ils essayaient en quelque sorte d'être en dehors du marché pour essayer d'avoir une valorisation. On a vu qu'en fait ils sont complètement eux-mêmes intégrés à la dynamique du marché, ils ont pris à leur compte les perspectives du marché, mais je pense qu'il faudra avoir d'autres sources de valorisation. La question au fond de la monétisation de la dette publique est une question de valorisation, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un peut soutenir, est-ce qu'il y a une autorité, des pouvoirs qui peuvent défendre une autre valorisation du taux de défaut de l'Italie. C'est ça la question. Et si vous le faites, alors vous pouvez monétiser. La monétisation, évidemment, n'a de sens que si le pays en question, vous pensez qu'il est solvable. Donc, voyez, la valorisation, c'est de l'action, en quelque sorte. Et donc, voilà. Donc, c'est l'empire de la valeur, c'est cette question donc, générale de la déconstruction de la valeur, essayer d'avoir une valeur qui ait pu une substance, et l'économie, la troisième partie qui est sur l'évaluation financière, essaye de montrer ça. Alors, le propre de la théorie financière, c'est que pour arriver à penser, je veux dire, à essayer de présenter un concept objectif de valeur financière, c'est très compliqué parce que la valeur financière, c'est toujours quelque chose qui a un rapport au futur. La valeur financière, c'est des profits dans le futur, comme on l'a dit, un taux de défaut futur. Donc, pour penser que ça, c'est objectif, vous voyez, il faut un cadre conceptuel très particulier. Et j'essaye de montrer qu'en effet, c'est le cadre de ce que j'appelle l'hypothèse probabiliste ou les modèles à Rodebreu, qui en effet ont cette conception très étrange de penser que le futur est déjà écrit dès le départ. Et c'est là, évidemment, où les choses sont un peu absurdes. Alors, ce qui est très marrant dans les manuels, c'est que cette hypothèse de probabilisme qui dit que le futur est donné, ça prend deux lignes. C'est pour ça qu'on parlait de la mathématisation, c'est intéressant. Prenez, je cite, c'est de notoriété publique, le fait qu'on dit au départ, il y a des états du monde, je les appelle E1, E2, les profits, les situations dans ces états du monde seront internes à ça, ça prend deux lignes, et après vous avez 150 pages de mathématiques. Mais qu'est-ce que va ces 150 pages de mathématiques si cette hypothèse-là, elle ne tient pas? C'est pour ça, vous voyez, ça peut être un intérêt intellectuel, mais c'est... Je ne suis pas contre la mathématique, mais quelquefois, elle est utilisée à mauvais escient.
Alors, donc, dans votre ouvrage « L'Empire de la valeur », vous introduisez cet ouvrage par une notion qui, moi, m'a vraiment intéressé. Vous reprenez la notion de paradigme de Thomas Kuhn pour donner ainsi une dimension historique à la discipline économique. Donc, si l'on considère que l'on est actuellement dans un paradigme d'enseignement néoclassique de l'économie, un paradigme où des idées néolibérales ont primé, ou comme vous venez de le dire, on met en avant une économie des grandeurs, une économie qui défend le mythe d'une valeur objective. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une rupture de convention assez forte en ce moment dans notre contexte de crise, une rupture de convention durable et générale menant à une situation de défiance à l'égard de ce paradigme financier et qui puisse permettre un dépassement de ce paradigme?
Alors, Non, je crois justement le propre de ces paradigmes, c'est de résister très fortement en cas de crise, c'est-à-dire d'immuniser le cœur de la théorie des anomalies. C'est ça que dit Thomas Kuhn, et il le dit de manière positive. Il dit ça c'est bien parce que ça laisse du temps à la recherche qui n'est pas obligée constamment de s'adapter à l'actualité. En quelque sorte, le cœur de la théorie est préservé même quand il y a des anomalies. Donc il y a une caractéristique d'immobilisme dans, en quelque sorte, dans le paradigme qui est vu positivement par rapport à Kuhn. Évidemment, ça, je trouve qu'on le ressent très fortement, cet immobilisme aujourd'hui. Il y a eu, en 2007-2008, il y a eu une remise en cause de l'économie, des économistes, mais aujourd'hui, mon sentiment, il faut demander à d'autres gens, mais mon sentiment, c'est qu'il y a un très fort immobilisme. On reste dans le même cadre conceptuel. Peut-être il y a quelques modifications, c'est-à-dire on ne parlerait plus d'efficience des marchés, on ne peut plus comme on le faisait jadis, mais le cadre conceptuel est resté le même. Et c'est ça que j'essaye de changer. J'ai bien conscience que c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de croyances qui sont investies dans ce paradigme. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt qu'on reste et on continue à faire la même chose. Je le résume par ce mot d'ordre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ce que disent les économistes en quelque sorte. C'est pas parce qu'il y a eu trop d'une tendance, une dérive vers l'efficience qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire le bébé, c'est quoi ? C'est toute le sature de modélisation qui a été créée, etc. Donc mon sentiment est plutôt pessimiste, et il est lié au fond assez naturellement à un diagnostic sur ce qu'est une organisation de la communauté scientifique. Vous voyez bien quels intérêts il y a, quel prestige donnent les prix Nobel, etc. Donc ça est très verrouillé, je sens ça très très verrouillé. Donc je suis plutôt pessimiste. Je crois qu'au fond, le seul point qui n'est pas verrouillé, c'est que la société civile s'est mise un peu à parler et à mettre en cause un peu certaines conceptions économiques un peu extrêmes. Et donc là, c'est de là, au fond, que le changement peut venir. Non seulement essayer d'avoir des nouvelles idées, mais parce que la société civile est plus exigeante, demande à être plus exigeante, et on a des problèmes à résoudre. Donc c'est plutôt là que je vois des modifications, parce que sinon je ressens un très très fort immobilisme au sein de la discipline.
D'accord.
Sur cette note un peu négative, nous vous remercions d'avoir accordé cette interview, et nous vous retrouvons donc demain pour deux conférences. Donc le matin, 75 ans de théorie générale, et l'après-midi, l'économie doit-elle prendre exemple sur les sciences dures ?
Et justement, dans cette deuxième séance de l'après-midi, c'est justement la question de l'organisation sous forme de paradigme, de se demander si la science économique doit avoir le même type d'organisation paradigmatique que les autres disciplines. Merci.
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 Édition spéciale, Transistor, aux journées de l'écho.